Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième journée de notre cycle d'émissions spécialement réalisé pour la Semaine Sainte. Pendant ces cinq jours, jusqu'au Vendredi Saint, Radio Présence vous propose une lecture commentée spirituellement et musicalement de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Pour nous porter dans la lecture commentée de cette Passion, nous sommes avec le Père Jean-Michel Poirier.
Bonjour.
Et avec le chef d'orchestre Jean-Marc Andrieux.
Bonjour.
Nous reprenons donc aujourd'hui et nous attaquons avec un récitatif en introduction. Donc ce récitatif initie le dialogue entre Jésus et Caïphe. Père Poirier, qui est Caïphe et pourquoi cet interrogatoire? Pourquoi vient-il là maintenant?
Alors Caïphe était grand prêtre cette année-là, nous a dit l'évangéliste au chapitre 11. Et la scène que la Passion ici nous décrit se déroule non pas chez Caïphe, mais chez son beau-père, Anne. Alors Anne, on écrit avec, généralement avec un H pour le distinguer du prénom féminin, bien que Anne puisse être aussi un prénom masculin, traditionnellement. Et donc on est chez des familles de grands prêtres. Alors il faut se rappeler ici que le grand prêtre... c'est pas le pape, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prêtre qui est distingué parce qu'à un certain moment donné, pour Yom Kippour, il va accomplir ce que nul autre prêtre ne peut accomplir, pénétrer dans le Saint des Saints. Il est le seul à pouvoir y pénétrer une fois par an. Donc autrement dit, il accomplit un acte liturgique spécifique.
C'est le grand prêtre. Donc c'est le grand prêtre. C'est très important dans la religion juive.
Oui, mais en même temps, il est très important, mais il n'est pas décisif, si vous voulez. Il n'a pas une espèce de pouvoir absolu. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on le compare, par exemple, au pape. Voilà.
C'est un pouvoir plus symbolique.
Alors. C'est un pouvoir plus symbolique, voilà. En réalité, alors il y avait donc des familles sacerdotales, et notamment des familles, des grandes familles, si vous voulez. Des grandes familles. Et on choisissait le grand prêtre dans ces grandes familles. C'est tout à fait intéressant de voir que Anne a été grand prêtre aussi, et Caïphe est grand prêtre. Et Caïphe est le gendre de Anne. Et donc on est là dans des généalogies de grandes familles sacerdotales. Alors ils occupaient ce poste effectivement pour un certain nombre d'années. Alors c'était possible d'ailleurs que l'un soit obligé à un moment donné de céder sa place à un autre, mais puisse la retrouver par la suite. On a comme ça des successions. En tout cas, on sait que Caïphe est très grand prêtre, et au chapitre 10, il fait partie donc nécessairement, le grand prêtre évidemment, du grand conseil des Juifs. C'est lui qui le préside. Et il avait dit, lorsque la décision est prise de mettre Jésus à mort, il avait dit « Vous ne songez même pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Lorsque certains dans le conseil doutent de l'opportunité de mettre Jésus à mort. Et cette parole est très importante parce qu'elle va être reprise dans la Passion, alors en plus condensé. C'est Caïphe qui avait dit « il vaut mieux qu'un seul homme meure ». Et parce qu'il était grand prêtre cette année-là, ajoute l'évangéliste, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation.
Pour la nation.
Et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ça, c'est au chapitre 11. Et donc, il y a une ironie de que souligne l'évangéliste, c'est-à-dire que Caïphe a un propos, on pourrait dire presque quasiment politique, et en réalité, il y a un autre sens, sans le savoir, si je puis dire, il va dire une vérité théologique. Et ça, c'est le procédé de l'ironie qui est employé à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, où des personnages disent ont des affirmations dont il existe un sens profond qui dépasse évidemment ce qu'eux veulent y mettre.
Donc ceux qui ont amené Jésus devant Caïphe n'ont pas vraiment obtenu ce qu'ils cherchaient.
Ah bah c'est-à-dire que là, il y a toute une aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, ils pensent qu'ils vont faire taire Jésus. Et en réalité, ils mènent les Écritures à leur accomplissement et ils mènent la mission de Jésus à son accomplissement. Donc là, ça c'est une thématique, je dirais, qui traverse même l'ensemble des évangiles. Alors une autre chose aussi qui est très importante dans l'évangile de Jean, c'est que tout le ministère de Jésus tend vers ce que Jésus appelle l'heure. L'heure est venue, voici l'heure. Et donc maintenant, on est effectivement à l'heure, c'est-à-dire que tout converge d'une certaine manière vers la croix. Alors c'est vrai aussi dans les autres évangiles, mais c'est particulièrement souligné dans l'évangile de Jean, à travers ce thème de l'heure.
C'est lié à la notion d'accomplissement.
Tout à fait.
Puisqu'on retrouve ce mot très souvent dans la Passion.
Voilà, c'est tout à fait. Alors, c'est aussi souligné chez Matthieu, le thème de... Enfin, je parle dans l'évangile en général. Mais bien sûr, chez Jean, c'est l'accomplissement à la fois non seulement de la mission de Jésus, mais de tout un projet qui existe depuis les origines, depuis que qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Enfin, voilà, c'est un projet quasiment cosmique qui converge vers cette heure-là. Alors cela n'empêche que on sait aujourd'hui que l'évangile de Jean reflète une excellente connaissance de la Jérusalem de l'époque. Pendant longtemps, on a dit, bon, l'évangile de Jean a été composé à Éphèse, Jean s'était retiré à Éphèse, en Asie mineure, donc très loin de Jérusalem, et donc c'est le dernier des évangiles composé, enfin le dernier, oui, les derniers évangiles composés, donc avec une certaine distance par rapport aux événements, et donc on disait les données factuelles de l'évangile de Jean sont moins fiables que celles de Marc, par exemple. Or, aujourd'hui, on sait que ce qui est dit de Jérusalem dans l'évangile de Jean est au contraire extrêmement exact, enfin exact en tout cas, et très approprié, et les découvertes archéologiques, ce que l'on sait aujourd'hui de la Jérusalem de l'époque de Jésus, redonnent de la pertinence historique à l'évangile de Jean. Et donc là, effectivement, il est conduit dans l'une de ses demeures de grand prêtre. Et donc, ça se passe chez Anne, où se réunit cette nuit-là le grand conseil des Juifs.
Donc cet interrogatoire, il nous est restitué sous la forme d'un récitatif que nous avons écouté tout à l'heure. Après ce récitatif, il y a un premier aria qui est chanté par une voix d'alto. Jean-Marc Andrieux, qu'est-ce que c'est un aria pour Bach ?
Un aria, c'est en fait un commentaire musical, spirituel, sur... le moment de l'action, l'action s'arrête et un chanteur va commenter musicalement par une phrase qui est mise en musique l'action qui vient de se passer. Ça fonctionne exactement comme dans l'opéra. En fait, on se demande pourquoi Bach n'a pas écrit d'opéra, mais on pourrait presque imaginer que les passions, c'est un peu la même chose que l'opéra. Et donc l'aria qu'on va entendre là, donc qui est un aria d'alto. Mm-hmm. Bach a choisi la voix d'alto parce qu'il y a, là aussi il y a une symbolique dans l'utilisation des registres vocaux. L'alto chez Bach, c'est l'âme en peine, l'âme affligée, la contrition, la voix de la contrition, alors que la soprano, c'est plutôt l'âme confiante et plus joyeuse. Et donc l'utilisation là de... quand on écoute un air, enfin quoi qu'on écoute de Bach, il faut absolument avoir les paroles et la traduction, et pour se rendre compte de la richesse de l'illustration musicale de Bach. Par exemple, dans cet aria von den Stricken, pour me délier des liens de tous mes péchés, les liens de tous les péchés, il va les illustrer par ces deux hautbois qui s'entrelacent, qui font leur mélodie entrelacées, leurs deux mélodies, et qui vont en plus entourer la mélodie de la voix d'alto. Même chose. Et puis, chaque fois qu'il parle de Sünden, des péchés, là aussi, on a une mélodie qui se fait plus dissonante et plus...
tiraillé.
Voilà. Mmh. Et il faut vraiment absolument écouter chaque mot, comment il était illustré par Bach musicalement.
Mais là, les mots, justement, le texte, c'est quoi ce texte de l'aria?
Brock, je pense que c'est dû à un poète allemand qui était très très... très très connu à l'époque, et qui a donné lieu à beaucoup de mises en musique par Handel, par Telemann, par Kaiser, par la plupart des compositeurs, et Bach lui-même. Donc ce fameux Brockes a écrit le texte des Passions. Mais Bach aussi, il y a quelques passages qui sont... on ne sait pas qui c'est qui les a écrits, on peut penser que Bach lui-même aurait pu écrire les textes de certains passages.
Exemple, pour la Saint-Matthieu, c'est un certain Heinrici, qu'on connaît plutôt sous le pseudonyme de Picander. Mais là, on pense aussi que Bach a collaboré aussi. Donc il y avait effectivement ces méditations, ce sont des textes poétiques qui se veulent des méditations sur le mystère que l'on contemple. Et personnellement, ça m'évoque un petit peu ce que propose Saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels, c'est-à-dire qu'il faut faire la composition de lieu, et là on pourrait dire que c'est la musique qui fait la composition de lieu, alors non seulement les paroles, mais aussi, Jean-Marc Andrieux l'a fort bien dit, les instruments, les rythmes, etc. Enfin, il y a toute la composition de lieu, et à un moment donné, Saint Ignace dit, eh bien, ayant contemplé la scène, je me demande ce que le Seigneur a fait pour moi. Et on s'introduit en quelque sorte dans la scène. Et là, dans l'aria que nous commentons, la voix va dire « Pour me guérir complètement de toutes les difformités de mes vices, il se laisse blesser. Pour me délier des liens de mes péchés, mon sauveur est ligoté. » Vous voyez. Et donc, en quelque sorte, c'est assez intéressant de voir que, là on est deux siècles après quand même, mais après ça, on retrouve un petit peu ce qu'il y avait déjà chez Saint Ignace, c'est-à-dire qu'en contemplant une scène, on se demande quel est le lien avec ma vie, enfin, et surtout, on doit prendre conscience que ce que fait le Seigneur, il le fait pour moi. Et donc, il y a une actualisation du mystère de la Passion dans l'aujourd'hui de l'auditeur ici.
Et l'aria permet de mieux le sentir.
Alors, écoutons cette aria, Von den Stricken. Voilà, ce premier aria de la Passion, Von den Stricken. Juste après celui-ci, très court récit de l'évangéliste, et puis s'enchaîne un deuxième aria, cette fois-ci avec un soprano. Vous avez tout à l'heure caractérisé Jean-Marc Andrieux, la différence entre alto et soprano. Donc là, c'est un soprano qui chante.
C'est un soprano qui est donc plus confiant et plus optimiste, on va dire, hein, sur le thème du croyant qui suit, qui se met dans les pas de Jésus, hein, qui ich folge dir gleichfalls, je te suis pareillement d'un pas joyeux. Il faut noter que là, Bach utilisait deux flûtes traversières à l'unisson, elles jouent toutes les deux à l'unisson, mais dans une tonalité si bémol majeur, qui fait jouer la flûte sur les notes faibles. C'est-à-dire que la flûte traversière en si bémol majeur a un son frêle et qui manque de puissance. Et là, Bach, avec cette tonalité et cet instrument, va illustrer la faiblesse du croyant.
C'est magnifique.
Vous avez dit, si je peux poser une question à Jean-Marc, vous venez de dire un soprano. D'habitude, soprano, on l'associe à une voix de femme, on dit une soprano. Donc, est-ce que c'était une femme?
Non, c'était des garçons. Hein, c'était des garçons qui chantaient, voilà, les voix de soprano et d'alto, et d'ailleurs qui chantaient à la fois dans le chœur et qui chantaient les solos. Et ils étaient, dans le meilleur des cas, 3 ou 4 par voix. Quand on joue cette musique avec nos grands effectifs, on ne peut que, comment dire, avoir une pensée émue pour Bach, qui aurait bien aimé avoir à sa disposition des effectifs plus importants.
Aujourd'hui, il y a des interprétations avec des garçons qui chantent ces airs-là. Ça reste difficile à mettre en place.
C'est très très difficile pour une raison, parce qu'en fait, je crois que le problème, c'est la mue, qui à l'époque de Bach apparaissait plus tardivement chez les garçons. Elle apparaissait vers 13-14 ans, alors que de nos jours, elle arrive plutôt vers 11-12 ans. Et du coup, c'est autant de temps de moins disponible
pour apprendre à chanter.
Voilà, ouais. Et puis après, il faut savoir qu'à l'époque, bien, les enfants commençaient très tôt et faisaient de la musique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je crois qu'on ne se rend pas compte du niveau excellent qu'il devait avoir quand même. Mais même si Bach n'était jamais trop content des enfants dont il se plaignait souvent.
Donc cela veut dire que généralement dans les enregistrements ou dans les concerts aujourd'hui, on entend plutôt aussi bien pour la soprano que pour l'alto des voix de femmes.
Oui, bien sûr.
Qui ont un timbre un peu spécial, un peu travaillé pour ce répertoire de Bach.
Qui ont un timbre travaillé, effectivement, il faut éviter d'avoir un vibrato trop large. Et en tout cas, j'ai choisi les solistes, notamment Julia, là, qui chante cet air. Je trouve qu'elle a une voix qui se rapproche de la pureté d'une voix d'enfant et qui est idéale pour ce répertoire.
Écoutons donc cette aria. Thank you. Voilà, à la suite donc de ce deuxième aria de soprano, nous avons un assez long récitatif avec des échanges avec le chœur. Nous rentrons dans le passage du reniement de Pierre. Père Poirier, qu'est-ce que c'est que cet épisode dans l'Évangile ?
Alors cet épisode est orchestré, si je puis dire, de façon particulière par Jean. Dans les autres évangiles, il y a le triple reniement de Pierre qui est groupé, si je puis dire, comme un épisode en soi, ou comme plutôt une scène en soi, dans la Passion. Et Jean l'a en quelque sorte ouvert, puisque entre les premiers reniements de Pierre et puis le dernier, il y a l'interrogatoire par les grands prêtres. Et ainsi, il met en contraste l'attitude de Pierre et l'attitude de Jésus. Et ça, c'est propre à l'évangile de Jean. Alors évidemment, Pierre, c'est pas n'importe qui. C'est l'apôtre par excellence. C'est le plus proche et le chef des apôtres. Et dans l'évangile de Jean, il y aura, correspondant à ce triple reniement, dans le chapitre 21, donc dans le dernier chapitre, la triple question de Jésus à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu ?» La fois, il dira « M'aimes-tu plus que ceci ?»« Pierre, m'aimes-tu ?» Pierre, m'aimes-tu? Et c'est alors qu'il lui dira « Sois le berger de mes brebis », qu'il répétera par trois fois. Un peu comme s'il fallait que Pierre ait fait cette expérience et reconnaît ce qu'il est, un pécheur. Et je pense au pape François qui, dans une de ses premières interviews qu'il avait donné à des revues jésuites, peu de temps après son élection, lorsqu'on lui demande « Parlez-nous de vous », il répond « Que vous dire de moi sinon que je suis un pécheur ?» Le successeur de Pierre commence par se définir comme étant un pécheur, quelqu'un qui n'est pas plus fort que les autres, mais qui fait l'expérience de la miséricorde divine.
Et ça renvoie à ce reniement.
Et bien sûr, ça renvoie à cette expérience fondatrice. Et là, on peut dire que là, on touche vraiment le sol ferme, je veux dire, de la réalité historique. Parce que quel intérêt aurait eu l'Église et la première prédication évangélique à mettre en valeur la faiblesse du chef des apôtres?
Parce qu'il faut imaginer la scène, il est dehors parce que Jésus est à l'intérieur et il y a des gens qui passent et puis on lui pose la question « Mais toi, je t'ai pas déjà vu avec Jésus ?» Et lui, « Oh ben non !»
Voilà, et puis, alors, d'ailleurs, on peut quand même dire qu'à ce moment-là, il se distingue des autres parce qu'on peut penser que les autres apôtres... Alors dans l'évangile de Jean, il y a le disciple que Jésus aimait, qu'il a introduit, qui connaît les familles des grands prêtres. La tradition a reconnu dans ce disciple bien-aimé la figure de Jean. Mais dans les autres évangiles, on peut dire que les autres disciples sont déjà partis, eux. Donc Pierre, il a au moins le courage d'essayer de suivre Jésus là. Mais là, il cale parce que, il menace d'être arrêté lui aussi et de partager le sort de Jésus. On peut penser à, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, mais vous savez, l'auteur de Covadis. Où Pierre, menacé d'être crucifié à Rome, quitte Rome et renouvelle un peu cette expérience et il croise Jésus qui lui dit je vais à Rome pour être crucifié puisque toi tu ne le veux pas. Et donc il y a cette difficulté chez Pierre, mais qui n'est pas une difficulté propre à Pierre, en fait c'est nous.
C'est nous, bien sûr.
Et je dirais quelque part c'est saint et saïen aussi que de, non pas de trahir et non pas de renier bien entendu, mais que d'avoir peur. Il ne souhaite pas la mort et personne ne souhaite la mort et Jésus n'a pas souhaité cette mort-là. Mais il l'accepte comme un don et comme une expression de l'amour. Et Pierre, il n'a pas encore fait ce basculement et c'est ce qui se passe dans cette scène.
Et Bach l'illustre justement quand c'est juste un mot « Ich bin's nicht », je n'en suis pas, je n'en suis pas. Et la cadence, c'est un chanteur du chœur qui va juste dire ce petit morceau de phrase. Et la cadence n'est pas affirmée. Bach, là aussi, musicalement, ne va pas donner une cadence bien, comme Jésus « Ich bin's », où là, on comprend bien qu'il n'hésite pas à dire « c'est moi ». Mais Pierre dira « Ich bin's nicht ». On voit que la musique est déjà moins affirmée.
Écoutons justement donc, écoutons ce récitatif, ce passage de la Passion selon saint Jean.
Das ist nicht, 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 das ist nicht
Donc vous disiez à l'instant, Jean-Marc Andrieux, il y a un dispositif musical un peu spécifique pour nous faire vivre ce reniement. On a dit une autre fois qu'on était presque dans un opéra. Là, on sent effectivement qu'il y a une vraie dramaturgie musicale qui s'est installée pour nous faire vivre ce reniement, ces doutes, ces questionnements. On n'est pas du tout dans quelque chose de linéaire ou de...
Complètement. Là, je pense qu'on est en plein dans le... Oui, dans le moteur d'un opéra, hein, un drame humain, un drame psychologique que Bach va illustrer génialement encore une fois. Et ça va prendre une importance, une grande importance dans la Passion, puisque c'est la fin de la première partie. C'est pas anodin non plus de terminer la première partie de sa Passion sur le reniement de Pierre et de consacrer même un choral à la fin de cette première partie et un aria aussi bouleversant qu'on va entendre juste avant le choral final de cette première partie consacré à ce thème du reniement de Pierre.
Ah, justement, cet aria.
Cet aria, c'est pour moi une des plus belles pièces de musique que air de ténor, d'une difficulté d'abord redoutable.
Pour le ténor.
Pour le ténor, ah oui, très difficile à chanter, avec des intervalles tourmentés, évidemment. Et Bach va utiliser là tous les moyens de la rhétorique musicale à son époque. Par exemple, les cordes vont tenir un intervalle dissonant pendant une mesure entière sans la résoudre, ce qui à l'époque devait sonner vraiment extrêmement moderne à nos oreilles. Nous, on a entendu du Stravinsky, évidemment, l'impact est moindre, mais quand même, c'est de la musique pour l'époque qui devait être... bouleversante, et il va aussi utiliser un rythme saccadé, tadan, tadan, ces rythmes pointés qui vont illustrer aussi le désarroi, en fait, le désarroi de Pierre.
Père Poirier, sur le texte qui est repris dans cet aria, est-ce que...
Moi, ce qui me frappe, c'est que dans le choral qui a précédé ce dialogue entre l'évangile, enfin, au sujet de Pierre, enfin, entre Pierre et ceux qui l'interrogent, le choral, lui... s'interroger ou faisait s'interroger le fidèle sur, d'une part, les tourments que subit Jésus, et d'autre part, les péchés du fidèle, qui, d'une certaine manière, ont provoqué la croix. Alors que là, dans l'air, c'est autre chose qui est proposé au fidèle. C'est ce moment décisif, que vais-je faire, moi ? Ou que ferais-je dans pareil... Non seulement que ferais-je dans pareilles circonstances, mais qu'est-ce que je vais faire, moi ? Ah, mon esprit, où vas-tu enfin aller, hein ? Où dois-je me réconforter ? Vais-je rester ici ? Ou souhaiter fuir derrière monts et collines ? Donc il y a ici ce moment de la décision. Et là, on peut penser aussi que, donc, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, l'action est suspendue. Et c'est le moment, pour le fidèle, aidé bien sûr par la musique, de réfléchir, de rentrer en lui-même et de se dire voilà, qu'est-ce que je fais, moi ? C'est pour moi que le Seigneur vit tout ça, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Voilà. Et donc, et puis, dans l'aria, ce qui est évidemment caractéristique de l'aria par rapport même au choral, c'est qu'on revient sur les mêmes paroles. On revient à plusieurs reprises.
On comme répète la même phrase
voilà,
plusieurs fois.
Comme dans un air d'opéra d'ailleurs. Hein. Et donc ça insiste. Et alors il faut aussi dire que autant les paroles du choral étaient connues par l'assemblée, autant les paroles de l'évangile sont plus ou moins connues, autant là évidemment c'est du neuf. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Et donc il faut répéter aussi pour qu'on s'imprègne du sens. Mais il s'agit effectivement plus encore que dans les chorales d'une suspension de l'action. comme l'a fort bien dit tout à l'heure Jean-Marc Andrieux, d'une suspension de l'action. Et puis, voilà, on insiste, et c'est le moment où on médite, vraiment c'est le moment de la méditation pour le fidèle.
Écoutons donc maintenant cet aria magnifique, Ach, mein Sinn. Voilà, donc on a dit on est presque à la fin de la première partie. Après cette aria, il y a un dernier choral. Quel est le sens de ce choral? Qu'est-ce qu'il nous raconte?
Eh bien, il s'adresse à Jésus et il commente le regard que pose Jésus sur Pierre, qui est d'ailleurs plus dans l'évangile de Luc d'ailleurs que dans celui de Jean. Et le fidèle, il fait dire au fidèle, ben, Jésus regarde moi aussi, lorsque je ne veux pas m'amender, si j'ai fait le mal, touche ma conscience. Et c'est donc une invitation, là, on n'est pas simplement dans la méditation ou dans la contemplation ou dans l'introspection, mais là, dans le choral, on s'adresse au Seigneur. C'est le moment de la prière, si vous voulez. Alors, il ne faut évidemment pas caricaturer, hein, ce n'est pas aussi net que ça, mais autant l'aria est le moment, si je puis dire, de la méditation, autant là, on serait dans ce que, excusez-moi, je fais encore référence à Saint-Ignace de Loyola, dans ce que Saint-Ignace appelle le colloque, dire je m'adresse cette fois-ci au personnage, je m'adresse à Jésus, je m'adresse au Père, je m'adresse à l'Esprit-Saint, et je lui demande quelque chose. Et ici, ça apparaît de manière très claire. L'aria, c'était « qu'est-ce que je vais faire ?» Et là maintenant, dans le choral qui suit immédiatement, c'est « Jésus fait ça pour moi ».
D'accord. Est-ce qu'il a un traitement musical particulier ?
Bien sûr, toujours. Je voudrais attirer votre attention sur le mot « bitterlichen weinet » et il pleura amèrement. Et là, le choral, qui en principe est harmonisé de façon assez simple, assez verticale.
C'est très vertical.
À ce moment-là, il y a juste quelques notes qui vont illustrer les pleurs et qui rappellent un petit peu le récit, le dernier récit de l'évangéliste avant l'aria, sur le Weinet Bitterlich. Und Weinet Bitterlich. Un passage extraordinaire là, de la Passion, où Bach va illustrer les pleurs de Pierre par des chromatismes extrêmement expressifs.
Écoutons donc ce dernier choral, Petrus, der nicht denkt zurück. Voilà, c'était donc le dernier choral de cette première partie. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure, Père Poirier, que à la fin de cette première partie, il y avait une pause dans la musique et commençait alors la prédication. Donc, c'est comme nous aujourd'hui, c'est un prêtre qui prend la parole pour une homilie, ça dure 5-7 minutes ou...
Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit ou si c'est Jean-Marc Andrieux, mais effectivement, on l'a dit ensemble. Mais effectivement, il y a deux parties dans la Passion. Et donc il y en a un choral conclusif et puis la seconde partie va débuter par un autre choral. Ce n'est pas deux chorales qui se suivent, mais effectivement entre les deux il y a le temps de la prédication dont Jean-Marc nous disait hors micro qu'elle était à l'époque une heure et demie de prédication.
Ah oui, alors, voyez, quand hein,
ce n'est pas comme aujourd'hui lorsqu'on dépasse les fameuses 7 minutes, on nous accuse d'être long. Mais il faut bien dire à l'époque
c'est
que
c'est une expérience vécue, mon père.
Mais la prédication, c'était aussi le cours de théologie à l'époque. Il y avait plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il y avait la leçon d'exégèse, il y avait le cours de théologie, et il y avait l'aspect qu'on appelle en termes techniques la parrainesse, c'est-à-dire un enseignement moral, l'appropriation de l'évangile dans la vie et dans ce que l'on va faire, et qui apparaît d'ailleurs dans le choral lui-même. Hein. Alors, on aimerait bien savoir... peut-être ce qu'avait dit le prédicateur. Je pense pas qu'on ait les textes là, non ? On n'a pas de texte. On aimerait bien savoir s'il est parti de l'évangile, s'il est parti du choral, ou de ce que vient de chanter le ténor dans l'aria. Voilà, mais ça on le saura lorsqu'on sera au ciel.
Merci pour ce petit bout de prédication. Nous allons arrêter là cette très brève cette deuxième journée. Merci beaucoup Père Poirier, merci Jean-Marc Adrien. Nous nous retrouvons demain.